Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés lors d'un débat, le premier entre les deux hommes depuis 2020. Isaac Franco, géopolitologue que vous connaissez bien puisqu'il anime Chercher l'erreur tous les lundis entre 17h et 18h. Eh bien, Isaac Franco analyse ce débat dans la matinale. Il est au micro de Blaise van der Linden.
Bonjour Isaac Franco.
Bonjour Blaise.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Vous êtes chroniqueur pour Chercher l'erreur, cette émission que vous animez depuis longtemps. Dans la nuit de jeudi à vendredi a eu lieu le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden. C'était la première fois que les deux hommes se rencontraient depuis 2020, c'est-à-dire depuis 4 ans. Question un peu générale, Isaac Franco, que retenir de ce grand premier débat ?
D'abord, vous dites premier débat, ça laisse entendre qu'il y en aurait un deuxième. Théoriquement, il est prévu qu'il y en ait un deuxième, d'ailleurs, au mois de septembre. Mais au terme de ce débat de la nuit de jeudi à vendredi, rien n'est moins sûr. Parce que on a vu les responsables démocrates du Parti démocrate, comme les commentateurs alignés généralement sur les vues du Parti démocrate, être en mode panique et s'interroger sur le point de savoir si Joe Biden sera bien le candidat du Parti démocrate à l'élection du 5 novembre. Donc tout ça se décidera vraisemblablement à la Convention nationale démocrate qui se tiendra à Chicago au mois de août prochain.
On l'a vu notamment dans le New York Times, Thomas Friedman, qui est un proche de Joe Biden, qui l'a carrément appelé à se retirer de la course présidentielle.
Et il n'est pas le seul. J'ai vu sur les plateaux de télévision, entre autres sur CNN, mais pas seulement sur CNN, sur MSNBC, sur NBC et sur ABC. J'ai vu ce matin les commentaires des responsables démocrates, parce que généralement ces chaînes de télévision dont je viens de parler sont plutôt les porte-voix du Parti démocrate, eh bien, à s'interroger sur la question de savoir si Joe Biden reste un candidat pertinent pour le Parti démocrate.
Avant de revenir sur ce débat, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un petit branle-bas de combat du côté de Joe Biden et de son entourage. Qui pourrions-nous imaginer qu'il remplace alors qu'on approche très prochainement de l'élection ?
Oui, on est à un peu plus de 4 mois, si je compte bien. Juillet ou septembre, octobre, oui, 4 mois de l'élection du 5 novembre. La réunion de la Convention nationale démocrate se passe au mois de août, donc il restera la moitié du mois de août et septembre et octobre pour changer de cheval au milieu du guet. Alors c'est déjà une procédure relativement compliquée puisque la plupart des électeurs du Parti démocrate ont porté leur suffrage sur Joe Biden. C'est lui le représentant légal du parti. Il y a une procédure à suivre si on veut changer de candidat. Et ça ne peut se passer que si Joe Biden renonce de lui-même ou si on lui fait renoncer à cette candidature. Mmh. Alors maintenant, qui est-ce qui pourrait prendre la place de Joe Biden? On cite beaucoup le nom de Gavin Newsom, qui est le gouverneur de l'État de Californie. Certains aussi évoquent le nom de Michelle Obama, l'épouse de l'ancien président américain Barack Obama. Donc on ne sait pas très très bien qui pourrait, comme ça, au dernier moment, prendre la casquette de candidat du Parti démocrate. L'avantage pour ce candidat qui serait à la dernière minute nommé pour remplacer Joe Biden, c'est qu'il n'aurait pas à assumer le bilan du mandat de Joe Biden, un bilan qui est pour le moins difficile à assumer. L'avantage d'un nouveau candidat, c'est de dire c'est pas moi. Moi, j'ai d'autres vues sur le Parti démocrate, sur le programme du Parti démocrate pour une mandature qui partirait donc de 24 jusqu'à 2028.
S'il y a ces sons de cloche autour de Joe Biden, c'est parce que lors de ce débat, Joe Biden a eu de nombreuses absences et donc il y a évidemment ce serpent de mer qui revient sur son âge et sur les difficultés qu'il aurait à assumer encore 4 ans de plus à la tête de la Maison Blanche.
Oui, sur son âge, mais vous savez, on est très inégaux devant l'âge. C'est quelque chose de très injuste. C'est très inégal, l'âge. Pour certains, c'est plus difficile que pour d'autres. Et pour Joe Biden, manifestement, c'est extrêmement difficile. Et ça ressemble presque à de la maltraitance pour personnes âgées, là. C'est presque de l'abus. On était presque embarrassés, gênés de regarder ce débat. Parce qu'il a moins porté sur le fond que sur la forme. Les Américains étaient moins... Il y avait plus de 100 millions de téléspectateurs qui ont regardé ce débat. C'est pas n'importe quoi. Hein. On a dit pendant plusieurs mois, ces derniers mois en particulier, que l'état cognitif de Joe Biden était déclinant, de plus en plus...
C'était un argument de Donald Trump, d'ailleurs.
Oui, mais c'était un des arguments centraux de Donald Trump, mais l'équipe de campagne de Joe Biden a tout fait pendant ces dernières semaines, ces derniers mois, pour cacher le déclin de cet état cognitif. Et même mettre ça sur le compte de fake news ou de cheap news, pour dire que c'était pas vrai, que c'était des montages. Mais là, pendant une heure et demie, pendant 90 minutes, on a vu le candidat démocrate dans la réalité de son état physique et mental. Et personne ne peut plus désormais tricher avec cette réalité qui paraît désormais incontournable aux yeux de tous, à commencer par ceux qui seraient tentés par le vote démocrate. Je dirais pas pour autant que Donald Trump a gagné le débat, mais ce qui est certain, c'est que Joe Biden l'a perdu. Et que Joe Biden, pendant 90 minutes, a littéralement implosé devant 100 millions de téléspectateurs. Et donc, ça laissera des traces. Et sur les plateaux de télévision, je le répète, les commentateurs étaient tous du même avis que ce qui s'était passé là était porteur de germes d'une défaite cinglante si le Parti démocrate, si ses couleurs étaient toujours portées par Joe Biden.
Vous le disiez, ce débat a plus porté sur la forme que sur le fond, mais sur le fond, il y a quand même eu... quelques sujets, notamment plusieurs médias ont soulevé des fausses informations, des fake news transmises par Donald Trump. Hors antenne, vous me rétorquiez que Joe Biden en avait aussi.
Oui, vous savez, fake news, tout dépend du regard que l'on porte sur les informations qui sont rapportées par l'un comme par l'autre. Bon, il est évident qu'on était dans l'approximation, on était dans des simplifications extrêmes qui, effectivement, tutoient la fake news. Et c'était aussi bien du chef de Donald Trump que de Joe Biden. Ce que je remarque, c'est que Joe Biden a perdu le fil du discours. Attendez, je vais reprendre ça sous une autre forme. Il n'était pas aussi... embarrassant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, je l'ai trouvé relativement cohérent. Et il répondait d'une façon relativement circonstanciée aux arguments, aux questions posées par les deux modérateurs de CNN. Mais c'est la forme qui faisait que le fond, on l'écoutait pas. Le fond, on l'écoutait pas, tout simplement parce que il ne finissait pas ses phrases, qu'il s'en mêlait les pinceaux. À un certain moment, il perdait le fil de son discours, il savait plus très bien de quoi il parlait, et il enchaînait sur une autre chose. Donc, c'était ça surtout qui a retenu l'attention, c'est de savoir, est-ce que Joe Biden est encore une personne que l'on peut qualifier de commander-in-chief, commandant en chef, et est-ce qu'il est présidentiable? Alors, sur ce plan-là, quel que soit le fond du débat, Donald Trump est infiniment plus présidentiable, plus fit, plus aiguisé dans son jugement, même si parfois, dans le débat, on a un peu assisté à... Ça m'a fait un peu penser, lorsque je regardais ce débat, à des scènes de films qui opposaient Walter Matthau et Jack Lemmon. Vous savez, c'est ces deux vieux qui se disputent dans une maison de retraite et ils s'envoyaient des vannes l'un à l'autre en disant c'est toi qui es le plus mauvais président de l'histoire des États-Unis et l'autre qui répondait non c'est pas moi c'est toi. Donc ça avait l'air de quelque chose d'assez indigne d'une démocratie comme la démocratie américaine. Mais je pense que l'essentiel du débat a moins porté sur le fond. On n'attendait pas ça. On n'attendait pas que ce débat augmente le niveau d'intelligence de la vie politique américaine. Très franchement, on n'attendait pas ça. Mais on attendait surtout de voir si Joe Biden était aussi présent, qu'il l'avait été au discours sur l'état de l'Union fin janvier de cette année, où manifestement il était beaucoup plus présent, il avait beaucoup plus assertif. On sentait un homme qui était présent dans son discours, qui habitait son discours. Et d'ailleurs, ça avait étonné beaucoup d'observateurs de voir Joe Biden dans une forme aussi étincelante compte tenu de son état de santé. Mais là, tout cet état de santé là est ressorti de façon très très cruelle pendant 7h30.
On arrive à la fin de cet entretien. J'aimerais revenir en 2-3 minutes, si possible, avec vous, Isaac Franco. Les deux candidats se sont écharpés sur plusieurs sujets. Qu'est-ce que vous en avez retiré ?
Alors, traditionnellement, la politique étrangère importe moins à l'électeur américain que les questions domestiques, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, le prix de l'énergie, la sécurité, le contrôle de la frontière méridionale des États-Unis, c'est ce qui sépare les États-Unis du Mexique. C'est ça, les questions essentielles. Et là, Donald Trump a marqué des points parce qu'il a tapé sur ces trois clous, essentiellement. Il a tapé sur l'inflation, sur la hausse du coût de la vie qui blesse les ménages les moins favorisés économiquement. Il a tapé également sur le chaos qui règne à la frontière méridionale et sur l'insécurité. Là, il a manifestement marqué des points. Il suffisait pour Donald Trump de ne pas faire de gaffe. Et là, les conditions qui encadraient le débat, dont on pensait qu'elles pouvaient pénaliser Donald Trump, lui ont au contraire favorisé. Parce que le fait qu'il n'y ait pas d'audience, qu'il n'y ait pas de public, que ce soit extrêmement encadré, qu'un candidat ne pouvait pas interrompre l'autre, eh bien, ça empêchait Trump de glisser vers ses excès dont il est coutumier. On se rappellera qu'en 2020, il interrompait souvent Joe Biden, qui le lui rendait bien d'ailleurs. Mais enfin, là, il a pu se contrôler et éviter les gaffes ou les excès qui l'auraient certainement pénalisé. Et donc, ça l'a favorisé. Il suffisait pour lui qu'il joue en défense et qu'il laisse Biden montrer l'état physique et mental dans lequel il se trouve et amener le téléspectateur et les responsables démocrates à la conclusion que, décidément, ce candidat n'est pas présentable. Alors, ça ouvre une question. C'est la question par laquelle nous avons commencé notre discussion. C'est, est-ce que il va faire un pas de côté, comme l'y invite la plupart des commentateurs démocrates, ou bien il va être remplacé. Et dans ce cas, quelle sera la personnalité qui sera appelée à prendre sa place? J'évoquais Gavin Newsom, qui est le gouverneur de l'État de Californie, mais la Californie est dans un état absolument déplorable, sur un plan financier, sur le plan de la sécurité, à telle enseigne qu'il y a des centaines de milliers d'Américains qui quittent désormais la Californie pour aller vers des cieux plus cléments sur le plan de la sécurité et sur le plan des taxes, des impôts. Non, ils vont vers le Texas, ils vont vers la Floride, ils vont vers d'autres états. Donc, il part avec ce désavantage, c'est qu'il est le gouverneur d'un état qui est littéralement, je ne vais pas dire en faillite, mais dans un état assez déplorable. Mmh.
Isaac Franco, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka et puis on vous retrouve ce soir à 17h pour votre émission Chercher l'erreur.
Ce soir, à tout à l'heure et merci pour votre invitation.